au plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Coucou, coucou, détendez-vous. Car ce soir, on aborde le paranormal ambiance Halloween. Au programme, histoire de fantômes, château, maison, église hantée, quelques exemples. Puis immersion dans l'univers trouble des enlèvements extraterrestres, le cas de Whitley Strieber. Et tout d'abord, un petit peu de musique avec les Byrds. Histoire de fantômes. Bah oui, of course, c'est Halloween. Quelle tradition orale n'a pas transmis des histoires de revenants à faire dresser les cheveux sur la tête? Thrillers, films, châteaux hantés, des chants de foire, visites guidées et livres à l'appel explorent la possibilité d'une vie après la mort et révèlent notre fascination pour les fantômes. Certains hantent le lieu de leur mort pour obtenir justice. D'autres mettent en garde les vivants. Ceux qui les ont rencontrés disent qu'ils sont bienveillants, ce qui les rend sympathiques, mais certains esprits peuvent être négatifs et parfois déclencher dans leur colère des forces puissantes. Parlons de quelques cas précis. Châteaux effrayants, par exemple. À travers les siècles, les châteaux ont été témoins de la souffrance humaine. Incarcération, maladie, suicide ou meurtre. Il n'est donc pas surprenant qu'ils concentrent un grand degré de vie spectrale entre leurs murs. Pendant des centaines d'années, d'étranges apparitions ont eu lieu à la Tour de Londres, le plus ancien palais prison-forteresse d'Europe. La tour a été construite par Guillaume le Conquérant sur un site qui avait été, plus de 1000 ans auparavant, un fort romain construit par l'empereur Claude. Aujourd'hui, le monument attire un grand nombre de visiteurs dont beaucoup espèrent apercevoir l'un des nombreux fantômes qui hanteraient les lieux. Lorsqu'elle servait de prison, la tour a accueilli de célèbres résidents. La reine Anne Boleyn, Guy Fawkes, Thomas More, la princesse Elizabeth, Lady Jane Grey ou Walter Raleigh. Beaucoup de ces malheureux prisonniers ont été torturés jusqu'aux limites de leurs forces avant d'être exécutés d'une façon barbare. Le plus souvent, décapités, pendus, écartelés ou équarris. Enfin, l'horreur, quoi. Leur tête était ensuite empalée sur des pics accrochés au mur d'enceinte, vision horrible servant d'avertissement aux passants. Une longue liste de rapports parle de revenants dans la tour de Londres. Le premier d'entre eux date de la moitié du XIIIe siècle. Les ouvriers travaillant à la construction de l'enceinte intérieure auraient affirmé que le fantôme en colère d'un certain Thomas Becket leur était apparu et avait frappé le mur de sa crosse, le réduisant en miettes. Le fantôme de la vieille comtesse de Salisbury, 70 ans, s'attarderait encore autour de la place des exécutions où elle a connu une fin vraiment sinistre. Henri VIII avait ordonné sa décapitation, mais au dernier moment, elle essaya d'échapper à sa mort en courant loin de l'échafaud. Le bourreau la pourchassa et balança sa hache qui la frappa à mort. Certains disent avoir vu la scène se rejouer sous leurs yeux. D'autres auraient observé l'ombre de la hache fatale se profiler sur les murs. De toutes les âmes tristes qui erreraient dans la tour, celle d'Anne Boleyn serait la plus familière. Ce personnage de tragédie a été jugé et exécuté pour adultère et trahison après avoir perdu son bébé, l'héritier potentiel du trône. Son corps sans tête, reconnaissable la robe qu'elle portait le jour de son exécution, marche encore aujourd'hui de la maison de la reine à la basilique Saint-Pierre au Lienz, où une procession de dignitaires spectraux l'accompagne vers sa tombe sous l'autel. Mais l'endroit le plus craint de la forteresse demeure la tour de Selle. Tout le monde l'évite. Les gardiens répugnent à y aller la nuit tombée depuis que l'un de leurs y a été retrouvé mort étranglé. Les chiens, qui possèdent, comme à beaucoup d'autres animaux, un espèce de sixième sens pour le surnaturel, refusent d'approcher ce secteur, alimentant ainsi la superstition et le mystère. Pas plus tard qu'en 2003, d'étranges incidents survenus lors d'une séance photo ont apporté un signe tangible de la présence d'esprit. Les ampoules n'arrêtaient pas de sauter et les flashs se sont subitement éteints sans explication. Le plus étrange, c'est qu'une fois le film développé, parmi les nombreuses photos voilées se trouvait un cliché avec, au centre, une boule de lumière matérialisée. Une autre destination de choix pour les touristes en Angleterre, le château de Windsor, résidence royale depuis le XIe siècle jusqu'à aujourd'hui. À travers les siècles, il a vu beaucoup de naissances et de morts et fait partie d'un nombre incalculable de légendes sur la sorcellerie et la trahison. Parmi tous les fantômes qui hanteraient les murs du château, ceux de trois rois font particulièrement sentir leur présence. On entendrait encore marcher et gémir Henri VIII, tandis que le fantôme de Charles Ier décapité en 1649 à Whitehall aurait été vu avec sa tête dans la bibliothèque et la maison des canons. On aurait aussi aperçu le roi fou George III, qui avait été incarcéré dans le château avant sa mort. Tout aussi connu, un autre château, le château d'Édimbourg en Écosse. Ah, l'Écosse, terre de prédilection, n'est-ce pas? Une forteresse magnifique d'austérité élevée sur le site d'un volcan autrefois actif. Cette construction, presque millénaire, a été le témoin de sommets de violence et de mort, si l'on en juge par le grand nombre d'apparitions qui ont eu lieu dans les parages. Les plus célèbres sont les tambours et les joueurs de cornemuse décapités, qui se promèneraient sur les remparts au son de leurs instruments. Récemment, de nouvelles histoires concernant les esprits ont vu le jour suite à une fascinante découverte faite dans les années 1990. Des travaux de rénovation ont révélé les fondations de bâtiments sous la ville moderne. On sait que la population d'Édimbourg fut décimée pendant la grande peste de 1665. Alors que l'épidémie reculait, les dirigeants qui avaient survécu jugèrent nécessaire de reconstruire une cité sur l'ancienne ravagée. Les bâtiments contaminés furent murés, avec les malades encore vivants, et le tout recouvert par les nouveaux édifices. On n'arrête pas les horreurs. Depuis que ce monde oublié est revenu à la surface, de nombreuses personnes disent avoir entendu des voix et aperçu de fascinants éclairs de lumière émanant de la ville souterraine. Un autre château écossais, Glamis Castle, apparaît dans la célèbre tragédie de Shakespeare Macbeth. Les scénarios étranges qui s'y déroulent ne se limitent pas au théâtre. De sombres et obsédants événements ont eu lieu dans ces murs. La légende raconte les crimes du deuxième lord Glamis, qui fraya avec le diable et dont l'héritage ne fut que brutalité et actes de violence. Le comte à la barbe, ou le vilain lord, comme on le surnommait, était violent joueur et buveur. Un soir, incapable de trouver un partenaire de jeu, il annonça qu'il pourrait jouer avec le diable lui-même. Quelques instants plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Un homme de grande taille avec une barbe, habillé entièrement de noir, demanda au comte s'il cherchait toujours quelqu'un pour parier. Lorsque les serviteurs entendirent des cris et le bruit de meubles que l'on balançait dans la pièce, ils regardèrent par le trou de la serrure pour tenter de voir ce qui se passait. L'un d'entre eux fut surpris dans cette position par son maître. Lorsque le comte de Glamis retourna dans la pièce, le sombre personnage avait disparu, emportant avec lui l'âme de l'aristocrate joueur. Ce dernier mourut 5 ans plus tard, et l'on raconte que son âme, torturée d'ivrogne, erre toujours dans le château en attendant de retourner dans la pièce pour jouer avec le diable. Le château abrite aussi le fantôme de Janet Douglas, épouse du sixième lord de Glamis. Après la mort soudaine de son mari, elle fut accusée sans preuve de meurtre et de sorcellerie. Jugée et déclarée coupable de complot, de meurtre sur la personne du roi d'Écosse, elle fut sommairement exécutée à Édimbourg en 1537. Son esprit errerait dans les pièces de Glamis et l'on l'aurait fréquemment vu prier dans la petite chapelle où elle chercha vainement refuge il y a presque 500 ans. Alors, cherche-t-elle la justice comme beaucoup d'autres fantômes? Quel que soit leur motif, ces spectres continuent à hanter quelques-uns de nos plus vieux châteaux, et encore aujourd'hui, ils représentent une source constante de fascination pour l'humanité. Passons du château aux maisons. Les maisons hantées ont inspiré des générations d'écrivains, d'artistes et de réalisateurs, tout en captivant des hommes de tous âges et de toutes nationalités. Étudier l'histoire de ces demeures donne un fascinant aperçu de leurs résidents d'un autre monde. Temple House, à Leeds, à l'ouest de Yorkshire, est une demeure de style Tudor dressée au centre de 1200 acres d'un jardin luxuriant à l'anglaise. Le Domesday Book atteste déjà de son existence en 1086. Au XIIe siècle, elle devint propriété de l'ordre des Templiers, avant de passer au XVe siècle entre les mains de la famille Thomas, plus précisément de Lord Darcy, un ami du cardinal Wolsey. Ce lord fut le premier d'une longue liste de propriétaires à opérer des transformations encore visibles aujourd'hui sur l'édifice. Suite à l'implication de Lord Darcy dans la rébellion du pèlerinage de Grasse et à sa décapitation, la maison fut saisie au nom d'Henri VIII et donnée à sa nièce, la comtesse de Lennox. C'est dans ce contexte historique que naquit Lord Darnley, Henry pour les intimes. La chambre la plus célèbre de la maison porte son nom aujourd'hui. L'enfant grandit dans les intrigues politiques, lesquelles aboutirent à son mariage mouvementé et tragique avec la reine d'Écosse. Il mourut assassiné. Après cette affaire, la reine Élisabeth Ier réquisitionna la maison, qui passa de main royale en main royale, et par autant de transformations tout en restant un centre de contestation politique. L'assassinat de Darnley ne fut en effet pas le seul à marquer les lieux. Dans ce contexte, pas étonnant que la Hampton Court du Nord abrite plus que des vivants. De nombreux esprits ont été vus à travers les siècles dans diverses parties de la maison, plus particulièrement dans la chambre de Darnley, située dans l'aile sud-ouest d'époque Tudor. On dit aussi que le fantôme d'un Templier monterait encore régulièrement la garde après 900 ans et qu'un petit garçon a l'habitude de sortir d'une armoire pour traverser la pièce en hurlant de douleur et d'angoisse. Autre habitué des lieux, la Blue Lady, c'est-à-dire le fantôme de Mary Ingram, dont le portrait orne les murs de la chambre aux damas verts. Elle vivait sur le domaine au XVIIe siècle. Une nuit, alors qu'elle revenait chez elle, son attelage fut attaqué et dévalisé par des voleurs de grand chemin. Bien qu'elle en sortît indemne, l'incident l'ébranla psychologiquement, car elle chercha ensuite à cacher ses richesses par tous les moyens. Cela devint une obsession. Elle hante encore les lieux aujourd'hui, dans sa longue robe bleue et son châle en dentelle, à la recherche de ses trésors perdus. Une autre demeure royale a aussi reçu sa part de scandales et d'intrigues. Cumnor House, dans l'Oxfordshire, propriété au XVIe siècle de Lord Robert Dudley et de sa femme Amy Robsart. Proche ami de la reine Élisabeth Ière, Lord Dudley ne quitta pas la jeune souveraine pendant les premières années de son règne. La rumeur a laissé entendre qu'un mariage royal aurait été envisagé si Lord Dudley n'avait pas déjà été marié. Dans sa quête du pouvoir et de la faveur royale, ce dernier avait délaissé son épouse et amie, était parfaitement consciente d'être le seul obstacle entre son mari et le trône. Craignant pour sa vie, elle se retira à Cumnor avec quelques serviteurs de confiance pour toute compagnie. Devenue paranoïaque, elle commença à faire très attention à sa nourriture de peur d'être empoisonnée, et elle ne sortait plus se promener sur le domaine qu'elle aimait pourtant tellement. Malgré toutes ses précautions, elle ne put échapper à son destin. Un jour, alors que son personnel l'avait laissée seule pour se rendre à la foire annuelle, elle rencontra la mort. Ses serviteurs trouvèrent son corps brisé au pied des escaliers. Diffamation et calomnie s'ensuivirent. Élisabeth Ière et Lord Dudley faisaient figure de principaux suspects. Devant ce scandale, la reine abandonna son projet de mariage qui aurait confirmé les rumeurs, et fit de Dudley le comte de Leicester. Ils restèrent proches jusqu'à ce qu'il meure en 1564. La vérité concernant le mystérieux décès d'Amy Robsart n'a jamais été établie. Peut-être est-ce pour cela que l'on distingue aussi souvent son âme torturée dans les parages. En 1810, les propriétaires de l'époque décidèrent de démolir l'escalier, avec pour effet de pousser ce spectre dans les jardins et le parc entourant la maison. En dépit des exorcismes, les voisins disent encore l'apercevoir dans les environs de la demeure où elle connut une fin si tragique. Dans le Norfolk, la demeure ancestrale des marquis de Townsend figure aussi sur la liste des maisons ensorcelées. L'esprit sans repos de la Brown Lady l'habite depuis plus de 170 ans. Il se fait ressentir et même photographier. On pense qu'il s'agit du fantôme de Dorothy Walpole, sœur de Sir Robert Walpole, qui fut le premier chef de gouvernement à habiter au 10 Downing Street. Comme Amy Robsart, Dorothy a souffert sous la houlette d'un mari cruel. Ce dernier s'occupa de leurs enfants lorsqu'elle montra des signes de désordre mentaux. La pauvre femme fut incarcérée au premier étage de Rainham Hall, et tout comme Amy, retrouvée morte après être tombée tête la première dans les escaliers. Comme c'est bizarre. Les différentes visions de cette âme infortunée, archivées avec soin, ont souvent converti les plus sceptiques à l'existence du surnaturel. L'un des cas les plus célèbres remonte à 1835 et au séjour de Frédéric Marriott, officier de la Marine royale, qui occupait la chambre même où Dorothy était enfermée. Bien qu'il rejeta toute allégation concernant le fantôme, Marriott avait pris la précaution de garder un pistolet chargé à portée de main lorsqu'il se trouvait dans le bâtiment. Les deux premières nuits se passèrent sans incident, mais la troisième ébranla son cynisme jusqu'au tréfond de son être. Deux témoins étaient présents. Ce soir-là, les trois amis retournaient à leur chambre lorsqu'ils virent, à leur grande surprise, une femme entrer dans celle de Marriott. L'officier apostropha l'intruse, qui ignora sa mise en garde en dépit de l'arme pointée sur elle. Moyennant quoi, Marriott tira. Lorsque la fumée se dissipa, il n'y avait aucun corps. Seul le trou fait par la balle en pénétrant dans le mur attestait du coup de feu. Un siècle plus tard, l'une des plus célèbres photographies d'un corps surnaturel fut prise dans la maison. Au cours d'une prise de vue pour un article dans Country Life, un photographe fit une découverte étonnante. L'un de ses clichés montrait clairement la silhouette d'une femme descendant l'escalier où Dorothy avait trouvé la mort. En dépit de leurs efforts, science à la pluie, les sceptiques n'ont jamais pu prouver que le cliché avait été trafiqué. Au contraire, il semble matérialiser l'existence d'une âme déchirée qui hante encore sa demeure terrestre en une incessante quête de justice. À des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté du globe, s'activent aussi les fantômes. En 1884, Christopher Crowley construisit la ferme de Monte Cristo à Duny, en Nouvelle-Galles du Sud. La maison a aujourd'hui la réputation d'être la plus hantée d'Australie. Un homme intelligent et visionnaire, Crowley avait entrepris d'édifier l'hôtel du chemin de fer en même temps que sa demeure. La ligne ferroviaire du Grand Sud traversant la région depuis 1878. Il tirait ainsi profit de l'explosion urbaine et assurait son avenir. Il vivait sur son domaine avec sa femme et ses enfants, coulant des jours heureux et améliorant sans cesse sa demeure, à l'origine déjà impressionnante. Le drame frappa ce petit monde en 1910, lorsque Crowley mourut d'une infection. Son épouse, passa les 23 dernières années de sa vie à le pleurer tellement dévastée par la disparition de son mari qu'elle ne quitta plus la maison, sauf en deux occasions liées aux funérailles de l'être aimé. En 1948, le dernier membre de la famille quitta le domaine, qui resta à l'abandon jusqu'à ce qu'il soit racheté et restauré dans les années 60. Depuis lors, ces différents habitants ont dit avoir assisté à une foule de phénomènes surnaturels. Certains ont vu l'esprit d'un petit garçon jouant dans le jardin, d'autres ont observé une femme en costume d'époque marchant le long du balcon. Toutefois, la plupart des spectres entreaperçus sont de la famille des Crowley, notamment l'inconsolable Madame Crowley. Elle enterrait son ancienne maison, empêchant quiconque d'y pénétrer, ou bien la chapelle en habit de veuve avec une grande croix en argent. Nombreux sont les visiteurs à avoir ressenti une présence mystérieuse. Ils parlent d'un sentiment de malaise, l'impression d'être observé, et ils évoquent d'inexplicables chutes de température dans certaines parties de la maison. Les habitués rapportent d'étranges incidents, tels que les portes qui claquent alors que les pièces sont vides, ou les bruits de pas sur les tapis de chambres inoccupées. Ces phénomènes sont si fréquents qu'ils n'y font même plus attention. Le nombre et la similitude de ces témoignages leur donnent une véritable crédibilité, si bien que la maison a récemment fait l'objet d'une investigation paranormale dans le cadre d'un documentaire filmé. Ce reportage, combiné à la réputation déjà acquise du domaine, lui vaut d'être aujourd'hui célèbre dans toute l'Australie. Château, maison, mais aussi église hantée. On pourrait se dire, les églises, ces lieux sacrés, pourraient être épargnés. Non, pas du tout. Chaque jour, à travers le monde, un grand nombre de défunts sont enterrés à proximité de lieux de culte. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup d'églises abritent des fantômes pas vraiment pressés de trouver le repos éternel. On a l'impression que certains traînent la patte. Tous les ans, des centaines de témoignages, dont certaines photographies, alimentent ce constat sans qu'aucune explication satisfaisante puisse être fournie. L'un des clichés les plus connus a été pris dans la pittoresque bourgade de Newby, Cumbria, en 1963. Le révérend Kenneth Lord, ayant promis de fournir une photo de l'église pour le journal du village, choisit une belle journée pour immortaliser le chœur. Il chargea son antique appareil noir et blanc, fixa la pose et enclencha. Tout était normal jusqu'à ce qu'il développe le cliché. C'est souvent le cas, hein. Sur ce dernier, on apercevait clairement une longue silhouette encapuchonnée et transparente à la droite de l'autel. L'homme d'église ne put expliquer l'anomalie et jura n'avoir rien simulé ou trafiqué. Des experts étudièrent son travail pour vérifier s'il y avait eu falsification ou non. Ils en furent pour leurs frais, malgré les examens scientifiques les plus rigoureux. Des tests plus récents ont même ajouté au mystère en démontrant qu'un ordinateur ne pouvait pas produire une image semblable à celle du cliché. Et ça, c'est encore plus mystérieux. Alors, comment expliquer ce mystère? Le révérend Lord possédait-il des connaissances technologiques supérieures aux nôtres? Ou bien cette photographie apporte-t-elle bien la preuve de l'existence d'un monde invisible à l'œil nu? Ça, c'est chacun qui réfléchira sur ce sujet. Une image tout aussi intrigante a été prise alors que la photographie vivait ses premières heures. Il s'agit d'un cliché de l'abbaye de Combermere dans le Shropshire. Le site a connu une histoire mouvementée. D'abord, abbaye cistercienne au XIIe siècle, elle subit la politique d'Henri VIII au XVIe siècle, si bien qu'il ne resta plus que la maison de l'abbaye et le réfectoire après la dissolution de la communauté. Au début du XIXe siècle, cette résidence, hautement désirable, ainsi que 22 000 acres de terre vallonnée et le titre de vicomte Combermere, furent accordés à Sir Stapleton Compton en récompense de nombreux services rendus au pays. Cet illustre officier de cavalerie, à la carrière éblouissante, fut nommé gouverneur de la Barbade en 1817. Alors en poste, il ordonna une enquête sur le célèbre mystère des cercueils mobiles. Malgré ses efforts, il ne fut jamais capable d'expliquer comment ces cercueils, scellés dans un caveau, pouvaient se retrouver à l'intérieur de la crypte. 74 ans plus tard, le vicomte connut une fin malheureuse lorsqu'il fut renversé et tué dans sa maison par un attelage pris de folie. Le matin de son enterrement, par une froide journée de décembre, une certaine demoiselle Sybille Corbett décida de faire ses adieux à la résidence du défunt. En souvenir, elle photographia la demeure. Autrefois débordant de vie, l'endroit paraissait étrangement figé et calme quand elle prit son cliché. Elle se souvient d'avoir été mal à l'aise. Le cliché développé montra que son sixième sens ne l'avait pas trompé. Elle avait apparemment capturé plus que l'atmosphère du lieu. Si l'on étudie l'image avec attention, on aperçoit les contours d'une tête et d'un torse dans le fauteuil, avec un bras ballant sur le côté. L'apparition ressemblerait au défunt vicomte Combermehmer. Il aurait décidé, comme la photographe, de dire un dernier adieu à la maison. De telles apparitions ne se cantonnent pas au Royaume-Uni. Au-delà de l'Atlantique, aux États-Unis, d'étranges phénomènes se produisent aussi, dont le plus célèbre aurait eu lieu dans le cimetière de l'église presbytérienne de Westminster à Baltimore. En 1786, le comité de l'église décida de construire un cimetière de guerre dans un ancien verger de pêcher situé juste en dehors de la ville. La tranquillité et la beauté du site attirèrent bientôt les citoyens les plus nantis qui édifièrent des caveaux élaborés pour accueillir leurs défunts. Parmi ces habitants illustres se trouvaient 24 généraux, 4 membres du Congrès et le célèbre Edgar Allan Poe et sa famille. Pendant la première moitié du XIXe siècle, Baltimore connut une explosion démographique qui amena des changements radicaux. Il fallut construire de nouveaux immeubles qui remplacèrent bientôt la campagne entourant l'église de Westminster. En 1850, afin de récupérer des terrains, les autorités municipales déclarèrent que les cimetières sans lien direct avec une église devaient être déplacés en dehors de la ville. Afin de contourner ce décret, le comité de Westminster décida de rattacher le site à l'église en construisant des arches sous la voûte et en élevant des murs autour des allées du cimetière. Les proches se voyaient accorder un accès facile aux tombes de leurs défunts dans les catacombes sous l'édifice. Le temps passant, la ville continua de s'étendre et la communauté presbytérienne déménagea. Finalement, le cimetière tomba en déshérence, fut vandalisé et laissé aux mains des vagabonds et des voleurs de corps. Les enfants en firent leur terrain de jeu et apparemment ouvrirent des tombes. On en fit faire le tour du cimetière avec des crânes au bout de manches à balai. Le nombre d'apparitions et de phénomènes surnaturels qui ont eu lieu dans ce vieux cimetière s'expliquerait-il par le manque de respect infligé aux défunts? Parmi eux, celui qui se manifeste le plus est le fantôme de Lucia Watson Taylor, mise en terre alors qu'elle n'avait que 16 ans, en 1816. Son esprit bienveillant s'agenouille devant sa propre tombe pour prier. La mystérieuse silhouette d'un homme habillé de noir, des pieds à la tête, hante aussi les lieux. Il porte toujours la même tenue, ainsi qu'un feutre sur la tête, une écharpe qui cache son visage et une canne à la main. Fortuitement, il apparaît au moins une fois par an, le 19 janvier, date anniversaire d'Edgar Allan Poe. Serait-ce l'esprit de l'écrivain décédé? Les revenants viennent en si grand nombre près de l'église que le cimetière attire également voyants et chasseurs de fantômes. La transcommunication pourrait leur permettre aujourd'hui de confirmer et d'appuyer leurs recherches. Cette technologie enregistre en effet des murmures étranges. Est-ce la preuve d'un essai de communication de la part de l'autre monde? Et vous? Vous en pensez quoi de tout ça? Bon, si vous êtes un pur rationaliste, cela vous fait sourire et vous tournez la page. Maintenant, si vous appartenez à la deuxième catégorie de gens plus sensibles et qui se posent des questions sur le monde après notre monde, là, par contre, ça peut vous toucher. On fait une pause musicale.
Make it.
merci de rester avec nous sur les ondes de CFM 90.2, Radio Rock. Vous êtes dans l'émission Au plus profond des ondes. Et je suis votre humble serviteur au micro. Alors, deuxième histoire, je vais vous parler de l'immersion dans l'univers trouble des enlèvements extraterrestres. Et aujourd'hui, c'est le cas de Whitley Strieber. Tout à fait loufoque, évidemment. D'abord, le portrait du témoin. Whitley Strieber ne fait pas partie de ces abductés qui n'ont tiré qu'angoisse et misère de leur expérience. Sa vie va au contraire prendre plus d'ampleur après cette expérience. Son témoignage est si extraordinaire que le récit de cette rencontre va devenir immédiatement un best-seller et les droits seront presque aussitôt rachetés par le cinéma. Il en découlera une adaptation cinématographique avec Christopher Walken dans le rôle principal. Le film est sorti en France en 1989 sous le titre « Communion » réalisé par Philippe Morat. Malgré ce succès commercial, Strieber a beaucoup souffert des moqueries et des colibés. En 1987, il dira d'ailleurs avoir largement mérité chaque dollar perçu sur son livre et sur les droits d'adaptation au cinéma. Voilà la rencontre en question. Alors l'histoire commence le 26 décembre 1985. Whitley Strieber passe les fêtes de Noël avec sa femme et son fils dans un petit chalet en bois perdu dans les collines enneigées du nord de l'État de New York. Vers 20h30, il branche comme à son habitude le système d'alarme du chalet pour passer une bonne soirée avec son épouse et son fils. Les capteurs de l'alarme disposés tout autour du chalet sont sensibles au mouvement. Vers 22h, Strieber décide d'aller se coucher. Il procède à la petite inspection habituelle de la propriété. Il jette un coup d'œil dans le garage, dans la chambre d'amis, où dort un couple et, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrus. C'est une manie chez Strieber. Et elle nous éclaire sur un trait de caractère spécifique du personnage. Vers 23h, toute la maison est endormie. Au milieu de la nuit, il est réveillé par un bruit étrange provenant de la salle de séjour du rez-de-chaussée, comme si un grand nombre de personnes se déplaçaient rapidement à travers la pièce. Pensant avoir affaire à un cabrioleur, il se précipite pour vérifier le panneau de contrôle du système d'alarme qui se trouve au chevet de son lit. La rangée de petites lumières ne révèle aucun signe d'infraction. C'est à ce moment-là que la porte de sa chambre à coucher s'ouvre et qu'une créature fait son entrée dans la pièce. Petite note, le récit qui va suivre a été obtenu grâce à une séance d'hypnose régressive menée par le docteur Donald Klein qui lui a permis de remettre dans l'ordre ses souvenirs et de retrouver les détails de la rencontre. Voilà, je ferme la parenthèse. Je disais donc, l'entité face à lui est de petite taille, et elle pointe juste très furtivement un demi-visage derrière la porte de la chambre. Quelques minutes passent dans un calme absolu, puis une sorte de petit robot se précipite sur lui. Il porte un chapeau élégant ainsi qu'une sorte de plaque tourbillonnante sur la poitrine. Strieber pense alors qu'il s'agit là d'une hypothétique protection contre le fusil chargé qu'il garde sous son lit, au cas où des intrus arriveraient à percer ses lignes de défense. Mais il n'aura pas l'occasion de se servir de son arme. S'ensuit alors une succession d'événements incroyables séparés par des intervalles de perte de conscience. Strieber se met subitement à flotter au-dessus de son lit. Puis peut-être sous l'impulsion d'un ordre mental de la créature, son corps se met à transiter dans les airs et pénètre à bord de ce qui pourrait être un engin posé sur la forêt, toute proche. Il se trouve alors au milieu d'une pièce en désordre, entouré de petites créatures de quatre espèces différentes. Le petit être du genre robot, des êtres petits trapus portant comme une sorte de masque de gorille, et des types de gris hauts de 1,50 m, très fluets, délicats, dont l'un a des yeux noirs et bridés hypnotiques, et l'autre des yeux noirs en forme de bouton. Là, il commence à avoir très peur. Et il sent sa dernière heure arriver. Il est comme paralysé par ce spectacle insolite. La terreur envahit tout son corps. Il se sent comme une bête traquée venant d'être capturée par des chasseurs, entre guillemets. Et tel est le cas. Malgré l'état de désordre apparent de la pièce, celle-ci est équipée de tous les appareils nécessaires à une opération chirurgicale. Et on lui réserve, a priori, un mauvais quart d'heure. Strieber est allongé sur une table et on lui implante dans le cerveau un genre d'aiguille. La pénétration de l'aiguille est lente et douloureuse et les procédures médicales ne s'arrêtent pas là. On lui incise également le bout d'un doigt et on lui enfonce un objet gros ailé dans le rectum, un objet énorme doté d'un enchevêtrement de fils à son extrémité. Dans une interview donnée plus tard à la presse, Strieber donnera ce complément d'information. La nuit du 26 décembre 1996, j'ai été violé avec un électrostimulateur, un appareil généralement utilisé dans les élevages. Cet engin est introduit dans le rectum et provoque l'érection et l'éjaculation par une stimulation électrique de basse tension dans une zone proche de la prostate. Mon sperme a été prélevé. J'ai été gravement blessé et mon docteur a diagnostiqué le viol après m'avoir examiné. Il va de soi que j'ai été attaqué par des intrus. Mais pourquoi? Si nous devions à tout prix sauver la race humaine, et si nous avions besoin du matériel génétique d'une espèce, d'un autre monde qui, on peut le craindre, ne comprendrait pas notre problème et ne nous le donnerait pas sans résister, nous ne nous contenterions pas seulement de le prendre, nous nous sentirions moralement en droit de le faire. Pour finir, on lui prélève un échantillon de sang avant de le ramener, sans la moindre explication, dans son chalet. À son réveil, il prendra conscience qu'une chose terrible vient de lui arriver, sans parvenir à se remémorer les détails. Au matin, en effet, il a déjà presque tout oublié. Les souvenirs lui reviendront progressivement du fait des douleurs qu'il ressent encore, et du fait aussi de la mystérieuse coupure qu'il a au doigt. Sous hypnose, Strieber se souviendra avoir également vu, sur des tables à l'intérieur de l'OVNI, des soldats dans le coma, ainsi que sa sœur et son père. À la suite de cette douloureuse expérience, son humeur est très assombrie. L'importante crise conjugale qu'il a vécue quelques mois auparavant s'amplifie. Sa femme menace de le quitter. Son couple va traverser une période de crise ininterrompu. Deux semaines après son expérience, Strieber décide de comprendre et d'expliquer ce qui lui était arrivé. Il se plonge dans un livre que son frère lui a offert pour Noël. Il s'intitule « Les ovnis et la science », écrit par deux auteurs anglais, Randalls et Warrington. Mais son expérience est trop récente, son contenu l'effraie et il ne peut pas lire plus de 5 ou 6 pages. Ce n'est que plus tard qu'il lira l'ouvrage en entier, et il sera choqué de découvrir le récit typique d'une abduction. Sa première réaction est de claquer le livre traumatisé comme un enfant qui vient de revivre son pire cauchemar. Mais l'envie de comprendre est plus forte, et Strieber se documente sur tous les sujets en rapport avec les abductions. Il rencontre alors le docteur Klein pour retrouver tous les détails de son abduction sous hypnose. Après ces séances, les informations tirées de son enlèvement présumé sont si bizarres que le docteur Klein diagnostique une épilepsie du lobe temporal, un des effets les plus fréquents de la maladie et l'apparition d'hallucinations. Serait-ce la raison? Strieber n'accepte pas le diagnostic, car il ne souffre d'aucun des symptômes de cette maladie, c'est-à-dire hallucinations de voix, de musique, de gens, d'odeurs, de goûts, etc. Ces caractéristiques sont appelées auras par les spécialistes et elles peuvent se prolonger 1 ou 2 minutes. Profondément marqué par cet événement, Strieber relate toute son aventure en 1988 dans le livre « Communion », qui va devenir un best-seller mondial. D'autres livres suivront, fondant un pan nouveau de l'ufologie, l'étude des abductions à laquelle participeront d'autres personnes comme Bud Hopkins ou John Mack. Dès le début d'un nouveau mouvement aux États-Unis, bientôt des groupes de soutien pour personnes enlevées se forment aux quatre coins des États-Unis. Bud Hopkins, qui se fait connaître comme spécialiste des histoires d'abduction, habite lui aussi dans l'État de New York. Il prend rendez-vous avec Strieber. Leur collaboration basée sur des hypnoses régressives va permettre de faire émerger avec un grand luxe de détails d'autres souvenirs. Les scénaristes d'Hollywood reprendront finalement toute l'histoire qui donnera naissance à un film, Communion, reprenant ainsi le titre de son livre. Le film sera le premier du genre à montrer les expériences pratiquées par les extraterrestres sur les abductés. Voici la description d'une scène fameuse et très détaillée qui montre pour la première fois au cinéma l'extraction d'un implant. Whitley Strieber est de passage à San Antonio, Texas. Il a rendez-vous avec un chirurgien pour se faire enlever un implant qu'il a dans l'oreille. Le médecin procède d'abord à un examen au rayon X, puis il pratique une incision sur son oreille. Il y découvre un petit morceau de matière dense qui ne semble pas vouloir sortir. Une seconde incision est nécessaire pour l'extraire, et au microscope électronique, il apparaît que ce morceau de matière possède une structure métallique incorporant des sortes de cristaux. Il y a en outre une petite partie qui semble vivante, mobile, et qui résiste à une immersion dans le formol. Par la suite, un ou deux jours plus tard, alors que le chirurgien souhaite analyser cet implant, celui-ci se désintègre. Bizarre, non ? L'enquête. Strieber est passé plusieurs fois au détecteur de mensonges. L'opérateur, comptant 30 ans de pratique, n'a pas mis en doute la véracité de ses dires. Puis trois psychologues et trois psychiatres l'ont interrogé. Il a subi une batterie de tests psychologiques et un examen neurologique. Il a été jugé parfaitement normal. Strieber a toujours assuré que ce qui lui était arrivé était terrifiant et tout à fait réel. Malgré cela, on a beaucoup raillé son récit et on a prétendu que ses souvenirs n'étaient qu'un effet secondaire de l'hypnose. Un temps passionné par son récit, le public s'est vite détourné de son histoire, encouragé par les vociférations des professionnels du discrédit qui ont tourné en dérision ces visiteurs extraterrestres aux petits yeux qui scrutent l'âme. Pour Strieber, ces individus qui ont scruté l'intérieur de son âme recherchaient à entrer dans une sorte de communion avec lui, d'où le titre de son livre. Peu après la sortie du film, Strieber a connu de nombreux déménagements. C'était comme s'il cherchait à fuir sa propre histoire. Durant des années, il a essayé de se cacher d'une menace dont il ignorait la nature. Chaque soir, il vérifiait sous les lits, dans les placards. L'angoisse de la terreur était si présente durant cette période qu'il a pensé en finir une bonne fois pour toutes avec la vie. Finalement, peut-être pour exorciser sa propre expérience, il a commencé à s'intéresser à l'ufologie. Au début, il a refusé de se documenter au sujet des abductions pour ne pas influencer ses souvenirs. Il a lutté contre lui-même pour ne pas se rendre directement à la bibliothèque afin de compulser la douzaine de livres relatant des rencontres de ce type. Et puis, il s'est rendu compte que ses souvenirs n'étaient pas tout aussi récents qu'il le pensait. En réalité, ses premières expériences avaient eu lieu dès l'enfance. Conclusion. Cette rencontre au cœur des enlèvements extraterrestres est inhabituelle. Après avoir vu le film Communion qui a servi à illustrer cet article, Strieber a eu un sentiment ambigu de malaise. Dans le public, d'autres personnes ont dit avoir retrouvé le souvenir d'une expérience similaire enfouie depuis longtemps dans leur subconscient. Ce témoignage précis et unique en son genre est-il le récit authentique d'une expérience partagée par des milliers d'Américains? Selon certaines études, plusieurs centaines de milliers de personnes auraient en effet été victimes d'enlèvements extraterrestres. John Mack le savait, le dossier des abductions est probablement le plus complexe qu'il soit. Il a d'ailleurs déclaré « Le fait qu'un phénomène dépasse les explications rationnelles et outrepasse nos conceptions de la réalité ne devrait pas nous permettre d'ignorer son existence et nous empêcher d'explorer ses dimensions et sa signification. » Alors, Strieber était-il menteur ou malhonnête? Ni l'un ni l'autre. Son parcours actuel d'ufologue renommé nous permet de penser qu'il désire sincèrement découvrir pourquoi les extraterrestres l'ont choisi pour établir cette communion entre nos deux espèces. Durant d'autres séances d'hypnose au cours des années 90, Strieber s'est souvent souvenu d'un voyage en train avec son père et sa sœur alors qu'il avait 12 ans. Et puis d'un seul coup, il s'est retrouvé dans une pièce étrange et ces êtres étaient déjà là. Il n'était pas apeuré au moment de son enlèvement. Il a observé de jeunes soldats américains, tous allongés et endormis. Il leur posait beaucoup de questions. Pourquoi les soldats sont-ils là? Réponse, parce qu'ils étaient seuls. Et à sa question, que faites-vous avec eux? Les êtres ont répondu qu'ils les examinaient, puis les renvoyaient chez eux. Strieber a également le souvenir d'avoir durant des heures été forcé de regarder des images de forme triangulaire, pyramidale. Il a paniqué quand il s'est aperçu que dans un coin de la pièce, il y avait son père, le visage déformé par la peur, qui tenait sa petite sœur inanimée dans ses bras. Son père essayait de protéger ses enfants, mais il ne pouvait pas bouger. Un moment, Strieber a hurlé de terreur, puis il s'est retrouvé dans le train à nouveau. Tout à coup, il est malade à en crever. Il n'arrête pas de vomir durant le reste du trajet. Sa crise cesse lorsqu'il quitte enfin le train. Adolescent, il a vécu le même type d'expérience avec l'impossibilité de bouger au moment où des êtres venaient près de son lit pour faire des choses, entre guillemets, avec lui. Ces êtres ne communiquent que par la pensée. Strieber entendait dans sa tête tout ce qu'il disait. Plus tard, il s'est souvenu également d'avoir observé un énorme cristal dans le ciel, souvenir qu'il avait complètement refoulé de sa mémoire. À lire ce dernier récit, retrouvé sous hypnose, on est en droit de se demander si Strieber est un véritable contacté ou s'il ne souffre pas d'une maladie rare inconnue. D'autres séances de régression hypnotique pratiquées cette fois sur sa femme, Anne Strieber, auraient peut-être pu nous apporter quelques éléments de réponse. Les enlèvements ayant lieu la nuit, alors qu'il était au lit, elle était présente. De fait, Anne Strieber a raconté sous hypnose qu'elle savait que quelqu'un d'autre était entré dans la chambre. Malheureusement, elle aurait reçu l'interdiction formelle de regarder autour d'elle. Elle serait donc restée allongée, les yeux fermés. Le lendemain, elle ne se souvenait plus de rien. Ce que raconte leur fils âgé de 6 ans à l'époque des faits est tout aussi très impressionnant. Dans ses rêves, il voit qu'on le sort de son lit pour le soigner et on le met sur un lit de camp sous la véranda. Alors que conclure de tout cela? Est-ce qu'on est en pleine imagination et fantasme? La description des êtres que Strieber a rencontrés durant ses enlèvements laisse songeur. Quel est le rôle de ce robot qui entre dans la pièce? Les entités portaient-elles des masques? Ce cas complexe est à peine croyable, recoupe tous les grands classiques de l'univers des enlèvements extraterrestres. Bien que Strieber et sa femme aient beaucoup souffert de cette expérience et de ses retombées, ils ont eu par la suite une vie tout à fait normale. Enfin, du moins, dit-on. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.